8 bliain úntach ar gachéine ar Radio San Ferrol.
Toke mera shea asme biotari bezmat yerindege mera biya mezele bezmat yerindege.
Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission. Nous allons parler aujourd'hui de l'adoption des enfants à l'international et plus particulièrement des enfants coréens. Notre invité, Nabi, a été adopté par une famille française et habite aujourd'hui à Cray. Bonjour Nabi.
Bonjour.
Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, au moins le début, comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais à quel âge tu as été adopté?
Oui, j'étais adoptée à 3 mois, donc 4 mois, et donc de Corée du Sud. C'était en 1983, donc j'étais adoptée le 17 août 1983 et moi je suis née le 9 avril 1983.
Et tu as grandi donc dans une famille française?
Ouais, j'ai été adoptée en Ardèche. Donc j'avais 2 frères et une sœur de 10 ans de plus que moi, un frère de 7 ans de plus que moi et un autre frère de 4 ans de plus que moi, qui étaient des enfants naturels de mes parents, enfin des enfants biologiques.
Ta relation avec eux et avec tes parents, c'est bien passé?
Alors bien, je ne sais pas ce que c'est bien,
oui,
mais disons
difficile
que...
à définir, je suis d'accord.
Et l'enfance, c'était assez... Enfin, c'est passé sans que j'en ai vraiment conscience. Je pense qu'ils étaient assez pionniers dans tout ce qui était culturel. Ils nous ont fait faire beaucoup de choses, beaucoup de voyages. Mon père était assez présent. Après, c'était une famille traditionnelle. Mon père était médecin à la campagne. Et ma mère, ensuite, qui était orthophoniste au début, elle est devenue mère au foyer pour s'occuper de nous, je crois, à la naissance de mon frère. Et celui qui est juste au-dessus de moi. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs, en fait, de mon enfance.
Et tu avais la conscience d'être adoptée? Ou à partir de quel âge tu as eu cette conscience?
C'est venu petit à petit, je pense, parce que c'est comme si je l'avais toujours su, parce qu'ils ne m'ont pas forcément caché. Mais c'est venu m'impacter dans mon cerveau. Alors en thérapie, j'ai pu voir que c'était à 2 ans, où j'ai eu comme un recul. Je me suis dit, ah bon, ben, c'est pas ma famille alors.
Je voudrais dire à nos auditeurs qu'en fait, on avait fait une première émission avec Nabi il y a 2 ans. Qu'on va essayer de remettre sur le site, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. À ce moment-là, Nabi nous avait demandé de la retirer, notamment par rapport à si ses parents l'entendaient, comment ils pouvaient le prendre. Aujourd'hui, en fait, Nabi a envie de revenir sur cette histoire. Et donc, on passe peut-être assez brièvement sur toute son histoire de vie. Parce que vous allez pouvoir le retrouver dans un premier épisode sur le site de la radio. Enfin, j'espère qu'on va y arriver. Mais il y a quand même quelque chose qu'il y avait dans la première émission que j'aimerais bien remettre. C'est un chant que j'avais adoré. Et tu peux nous expliquer ce que c'est ce chant, en fait, avant qu'on l'entende?
Oui. C'était... Quand j'étais allée en Corée, que j'étais enceinte de mon fils de 2 mois, et je marchais derrière une femme coréenne qui était là avec sa fille, et sur un site touristique, très beau d'ailleurs, à côté de la mer, et elle s'est mise à chanter. Et donc je lui ai demandé si je pouvais l'enregistrer pour l'écouter, parce que j'ai trouvé ça moi aussi vraiment très très beau. Et elle faisait ça comme... comme on respire. Du coup...
산허리에 잔디만 푸르러 푸르러 솔밭 사이 사이로 회오리 바람 타고 간다는 말 한마디 없이 너만 가고 말았구나. 피어나지 못한 채 붉은 장미는 시들었구나.
Donc cette femme, tu l'as entendue quand tu étais en Corée?
Oui.
Tu peux nous dire en quelques mots tes voyages en Corée?
Eh bien, j'y suis allée deux fois. Alors la première fois, j'avais 16 ans. Ça n'allait pas à l'école, ça n'allait pas même dans ma vie. Et je me souviens, c'était une période vraiment compliquée. Et lors d'un entretien avec un de mes professeurs, justement, ma mère m'a dit « Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que t'es adoptée ?» Alors là, je suis partie d'un coup, quoi. Et oui, peut-être ça venait sûrement de ça, d'un problème identitaire, en fait. J'ai eu comme une crise identitaire à l'adolescence. Je savais plus qui j'étais. Donc ils m'ont proposé d'aller en Corée dans un voyage organisé par La Cause, c'est l'organisme par lequel j'ai été adoptée. Et j'ai fait ce voyage avec d'autres Coréens adoptés et même les fratries des Coréens adoptés qui parfois n'étaient pas Coréens, mais ils étaient adoptés à l'international. C'était très bien et moi je pensais j'étais ado, hein, je pensais à fumer derrière les camions avec mes copains plutôt qu'à visiter les temples bouddhistes. Hein.
Ça me passait au-dessus. Bravo pour le message que tu passes là à la radio.
Mais alors, j'ai pu découvrir à ce moment-là, je suis allée dans mon orphelinat, on faisait le tour des orphelinats pour savoir s'il y avait des nouvelles des parents ou faire des recherches. Enfin, très sommaire les recherches, hein, on posait juste la question. Et c'était une génération de personnes qui nous a accueillis où c'était tabou. Donc on avait des réponses. Moi, ma réponse, ça a été, on a brûlé votre dossier quand l'orphelinat a déménagé. Et on ne sait pas où il est. Et après, j'ai appris dans mes recherches que c'était une réponse classique qu'on donnait aux personnes qui venaient rechercher, qui étaient nées dans les années 80 ou avant. C'est parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec les enfants adoptés. Et alors, la deuxième fois que je suis allée en Corée, c'était en 2018 ou 2019. J'étais enceinte de mon fils. J'ai pris des billets d'avion très rapidement, sans savoir, mais en fait, j'étais enceinte. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une génération, la génération d'après, c'était 20 ans après, qui était curieux de savoir vraiment qu'est-ce qui s'était passé, parce qu'il y avait tellement d'adoptions. Ils avaient dû en entendre parler un petit peu, et ils étaient vraiment prêts à m'aider là, à faire des recherches.
Tu es repartie toute seule la deuxième fois ?
Oui, je suis repartie toute seule. J'avais besoin d'être toute seule, sans personne.
Et tu es retournée à l'orphelinat où tu avais été trouvée ?
Eh bien, il avait été rasé en fait, et une demeure avait été reconstruite dessus. Mais j'ai eu vraiment un gros coup de chance parce que j'ai pris un taxi avec un homme qui avait grandi à côté de l'orphelinat. Et donc en discutant dans le taxi, il m'a dit « Ah ben je sais où c'est parce que j'ai grandi à côté ». Tout ça en coréen, en anglais, enfin bon, parce que je parle pas coréen. Et donc j'ai pu y aller et puis j'ai vu là juste un grand jardin à la place. Mais par contre, il y a une dame, après je suis allée à ce qu'on appelle la mairie de l'arrondissement de là-bas, qui était de la génération donc plus jeune et qui a été un peu touchée par l'histoire et qui a du coup téléphoné à une vieille dame qui était à ce moment-là, qui était vivante à ce moment-là et qui faisait des allers-retours à l'orphelinat pour apporter des habits, pour s'occuper peut-être un peu des enfants. Et donc elle l'a appelé, là devant moi. Et la vieille dame est venue et a pu témoigner de ce qui se passait en fait dans cet orphelinat à ce moment-là.
C'est possible que qu'elle t'ait vue quand tu étais enfant ? Elle venait déjà à cette époque-là ?
Oui, c'est possible. Elle m'a dit qu'elle venait déjà en 83. Après, il y avait beaucoup de bébés. Elle m'a dit qu'il y avait 50 à 60 bébés, tous en moins de 3 ans.
Tous adoptables ?
Ouais,
enfin, bah... adoptable officiellement, on va dire. Parce que,
oui. Oui, voilà. Oui, oui, parce que c'est pas... Je sais pas s'ils étaient tous adoptables, mais il y en a beaucoup, oui.
Il y avait beaucoup d'enfants, Nabi, tu disais de 50 à 60 à peu près quand tu y étais. Pourquoi autant d'enfants? Comment ça se fait qu'en Corée du Sud, à cette époque-là, autant d'enfants étaient, entre guillemets, adoptables?
Eh ben, parce que il y a eu un pic des adoptions dans les années 80. Parce qu'il y avait plusieurs vagues en fait d'adoption et peut-être que on va écouter un monsieur Denecher qui va en parler.
Oui, tout à fait. Sylviane, tu peux nous présenter un peu monsieur Denecher?
Oui, voilà, nous avons pris contact avec monsieur Denecher d'ailleurs grâce à Nabi. Et monsieur Denecher est un professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers. C'est un spécialiste reconnu de l'histoire de l'adoption internationale grâce à une approche approfondie de milliers de papiers d'archives diplomatiques et nationales qu'il a étudiés. Il a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, notamment l'ouvrage « Des enfants venus de loin, histoire de l'adoption internationale en France ». Il a aussi dirigé une étude historique en 2023 sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale depuis 1945. Nous allons donc écouter ce professeur parce qu'après, avec Nabi, nous parlerons de cette problématique de l'adoption internationale.
L'histoire de l'adoption internationale en France, elle est déjà longue. On peut dire qu'elle a aujourd'hui 80 ans. Ça veut dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale va commencer ce qu'on peut appeler le temps des pionniers, un peu, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des couples, des familles qui vont pas hésiter à aller chercher un enfant de l'autre côté de la planète. Les motivations de ces premières adoptions internationales, très particulières, c'est essentiellement des motivations de type humanitaire, c'est-à-dire faire le bien, sauver des enfants, une espèce d'injonction comme ça, morale, au sauvetage des enfants, qui va être très prégnant jusque dans les années 60, 70 encore, voire 80. Et le développement de l'adoption internationale, c'est essentiellement un premier grand flux qui va de la Corée du Sud vers les États-Unis. Entre 1950 et 1953 a eu lieu la guerre de Corée, qui était un conflit de la guerre froide entre d'un côté le monde capitaliste et puis de l'autre côté le monde communiste. Et donc les États-Unis ont envoyé beaucoup de GIs, de soldats américains, en Corée du Sud pour défendre cette partie de la Corée et défendre cette démocratie. Et comme partout, c'est-à-dire comme dans tout épisode de ce style, c'est-à-dire l'arrivée massive d'hommes sur un territoire, eh bien, il y a des rencontres entre ces hommes et les femmes autochtones. Ça s'est vu dans la colonisation, ça se voit dans des guerres d'invasion aussi, et là, ça s'est vu dans des guerres d'intervention. Donc, en fait, entre des soldats américains qui sont très nombreux pendant ces trois années et des femmes sud-coréennes, eh bien, il y a des relations. Certaines sont des relations tout à fait consenties. Il y a de belles histoires d'amour. Il y a aussi des viols. Il y a aussi des histoires d'un soir, des passades, de la prostitution, etc. Et de toutes ces rencontres, de toutes ces relations sexuelles, vont naître des enfants métis, amérasiens, de père américain, de mère sud-coréenne. Et ces enfants métis sont très mal acceptés par la société sud-coréenne, qui est assez homogène. Et il va se poser tout de suite une vraie question, c'est-à-dire que faire de ces enfants métis nombreux, dont la Corée du Sud, en tant qu'État, n'a absolument pas les moyens de s'occuper. Hein, la Corée du Sud de l'époque, c'est un pays sous-développé qui a beaucoup de difficultés à avoir des politiques sociales pour s'occuper de l'ensemble de sa population, et encore plus pour ses enfants métis qui sont mal acceptés socialement. Et donc un premier mouvement d'adoption internationale va avoir lieu, c'est notamment le pasteur Holt qui va lancer ce mouvement-là. Holt va tenir un discours très simple aux GIs américains, dont la plupart sont revenus aux États-Unis, en disant En fait, nous avons fait un good job, du bon travail de l'autre côté du Pacifique. Nous avons sauvé la démocratie, mais nous avons oublié quelque chose là-bas. C'est des enfants. Et donc, il va créer un premier mouvement d'adoption de ces enfants métis, amérasiens, de Corée du Sud vers les États-Unis. Et puis, ce mouvement-là va s'étendre. Et dès le milieu des années 60, eh ben, il y a des enfants sud-coréens qui sont adoptés en France via des associations, via ce qu'on va appeler des, ce qu'on appelle à l'époque des œuvres autorisées pour l'adoption, des OAA, qui vont servir d'intermédiaire entre finalement une demande forte en France, qui est celle de d'hommes et de femmes qui veulent avoir des enfants et qui peuvent être stériles, peuvent avoir des motivations religieuses ou philosophiques. Et puis de l'autre côté, eh bien, une offre en quelque sorte, c'est l'offre d'enfants qui sont dans le besoin en Corée du Sud. Alors évidemment, quand on arrive dans les années 60-70, ces enfants en Corée du Sud, ils ne sont plus guère des enfants métis. Les soldats américains, ils sont partis. Il y en a un certain nombre qui est resté pour maintenir la sécurité du pays. Mais, et donc là, bah, ce mouvement d'adoption internationale va être comment dire, toléré, même organisé par l'État sud-coréen. Et dans les années 1970, arrive en France chaque année de très nombreux enfants sud-coréens. Pour vous donner un chiffre, hein, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 10 000 enfants sud-coréens qui sont arrivés en France pour y être adoptés. Et donc, dans ces années 70, dans ces années 80, eh bien, on atteint un peu un pic, en quelque sorte, avec une donnée qui va changer fondamentalement les choses. C'est que dans les années 80, la Corée du Sud commence à devenir l'un de ceux qu'on appelle les petits dragons à l'époque, avec Taïwan, avec Hong Kong, avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme ça. Donc un pays qui commence à se développer, qui se développe très vite. Et l'illustration, si vous voulez, de cette réussite un peu rapide du développement sud-coréen, ce sont les Jeux Olympiques de 1988 qui ont lieu à Séoul. Et là, il y a un peu un tournant, une évolution. Ça veut dire que dans l'opinion publique sud-coréenne, commence à se faire jour la question, mais maintenant nous sommes capables d'organiser les Jeux Olympiques, mais nous ne sommes pas encore capables de prendre soin de tous les enfants qui naissent chez nous. Et c'est pour ça qu'on en envoie tant en adoption internationale. Et donc il commence à y avoir un mouvement, si vous voulez, à partir de ces années 80, qui est, eh bien, il faut organiser l'adoption internationale le plus rigoureusement possible pour pallier, en quelque sorte, toute récrimination, revendication, critique sur cette adoption internationale. Et donc, dans les années 90 et 2000 encore, eh bien, des enfants sud-coréens vont toujours quitter la Corée du Sud. L'État sud-coréen organise à ce moment-là aussi ce qu'il appelle des retours en Corée. C'est-à-dire que les enfants nés en Corée qui ont été adoptés à l'étranger, la Corée du Sud considère que, d'une certaine manière, ils représentent la Corée un peu partout dans le monde. Hein. Et ils organisent de grands retours en Corée pour quelques jours ou quelques semaines. Ils organisent des voyages pour des personnes d'origine coréenne adoptées à l'étranger pour qu'elles reviennent au pays, reviennent voir voilà, l'endroit où elles ont été élevées, la ville dans laquelle elles ont vécu leurs premières années, etc. etc. Donc la politique d'adoption internationale en Corée du Sud, elle est très particulière. Hein. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps.
Par rapport aux années 60-70, est-ce que la Corée a essayé de se débarrasser, c'est un mot un peu fort, mais je crois que ça a été le cas, d'enfants de familles très pauvres, voire de femmes qui n'étaient pas mariées, en dehors des enfants de GI. Est-ce que ça s'est poursuivi longtemps, ce genre de concept ?
Oui, alors effectivement, La question, c'est en fait quels sont les enfants qu'on propose à l'adoption internationale. Voilà. Pour la Corée du Sud, le choix a été fait assez tôt de véritablement utiliser, si j'ose dire, hein, mettre à profit l'adoption internationale pour en quelque sorte régler une question sociale. Et donc effectivement, un certain nombre d'enfants, de filles mères, dont les parents ne veulent pas revendiquer la maternité ou la paternité, mais aussi des enfants qui peuvent avoir des déficiences, que ce soit de développement ou physique, etc. Eh bien, l'adoption internationale a été effectivement conçue comme un bon moyen de faire prendre en charge ces enfants ailleurs. Voilà, je le dis avec un peu d'euphémisme.
Et donc, il y avait une notion d'argent, parce qu'il y a eu beaucoup d'agences responsables d'adoption qui se sont fait de l'argent là-dessus, non, je pense.
Alors, dans l'adoption internationale en Corée du Sud, les agences d'adoption, et notamment les grandes agences d'adoption américaines, jouent un rôle considérable. Plus que dans d'autres pays de départ de l'adoption internationale. Mais très tôt, avec notamment le Holt Adoption Program, les grandes agences américaines ont mis la main un petit peu sur cette question. Et effectivement, une adoption internationale, eh bien, voilà, ça a un certain coût. Et on peut dire aussi que ces agences d'adoption américaines, si elles ont eu un incontestable rôle social, on peut trouver que ce rôle social, il était trop ceci, pas assez cela, et il est sûrement critiquable. Mais en tout cas, il y avait objectivement un rôle social. Mais en même temps, ces grandes agences américaines, évidemment, ont fait un certain nombre de profits sur ces adoptions.
Et dans les années 80, moi, j'ai lu aussi que les médias français avaient eu un gros impact sur les parents qui désiraient adopter, parce que c'était présenté comme quelque chose de très positif, de sauver ces pauvres enfants, et c'était beaucoup plus facile que d'adopter des enfants en France où ça a toujours été très compliqué, en fait.
Alors, il y a plusieurs périodes. Incontestablement, le milieu des années 70 en France change la donne. Ça veut dire que la loi sur l'IVG, autorisant l'IVG, l'évolution de la société avec la manière d'accepter finalement un peu mieux ce qu'on appelait les filles mères, les mères célibataires, etc. Enfin bon, tout ça. Donc en fait, il y a un moment, et on peut dater ça du milieu des années 70, début des années 80, où il y a moins d'abandon d'enfants en France. Ça veut dire moins d'enfants adoptables, moins de pupilles de l'État, etc. Ce qui fait que, effectivement, à ce moment-là, il y a comme une crise des ciseaux. Il y a moins d'enfants adoptables en France et il y a plus de gens qui, désormais, veulent adopter sans trouver, en quelque sorte, d'enfants ici, à l'échelle nationale. Et donc, ils se tournent vers l'étranger à une période où on est dans les années 80. C'est beaucoup plus facile d'aller à l'étranger que dans les années 60. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pionniers. Mais dans les années 80, l'adoption internationale devient du coup un véritable phénomène de société. On peut adopter des enfants dans à peu près 40 ou 45 pays différents. Les transports sont bien plus faciles, etc. Et effectivement, il y a une valorisation de cette adoption internationale. Avec cette injonction morale à sauver les enfants, c'est bien ce que vous faites. Hein, d'adopter un enfant à l'étranger, c'est bien, c'est bien. Et en même temps, c'est aussi dans les années 80, notamment via la presse, mais pas que, aussi vis-à-vis de certains acteurs, qu'on commence à soulever les problèmes éthiques que pose l'adoption internationale, c'est-à-dire la place de l'argent, le rôle de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que on n'est pas là dans quelque chose qui ressemble à un marché avec une offre et une demande. Est-ce que on se soucie suffisamment de la question des origines de l'enfant, des droits de l'enfant, droit de connaître ses parents, droit de connaître ses origines. Est-ce que ces enfants qui arrivent Ils ne sont pas orphelins, hein, il y a très peu d'orphelins dans l'adoption. Ils ont été abandonnés, j'ai envie de dire, dans les règles de l'art, d'une certaine manière, c'est-à-dire est-ce que leur famille, et notamment leur mère, ont vraiment consenti un consentement libre et éclairé sur toutes les conséquences qu'impliquait l'abandon d'un enfant, ou en tout cas son confiage pour qu'il soit partant vers l'adoption internationale. Donc vous voyez, on est un peu à un tournant, les années 80, il y a beaucoup d'adoptions internationales, on est à peu près, on doit être à quelque chose comme les années 80, où on doit monter début des années 90 jusqu'à quelque chose comme 2 500-3 000 adoptions par an, et avec un débat. Hein, d'un côté, bah oui, c'est bien, c'est beau, et puis de l'autre, oh, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas toujours très claires.
Oui, ce n'était pas toujours très éthique. Je voulais voilà. vous demander aussi, moi j'ai lu l'association Terre des Hommes. On dit oui. que c'est elle qui a été la première dans les années 80 à soulever justement ce problème d'éthique et à faire que l'enfant soit une véritable personne et qu'on prenne conscience de ce qu'on lui fait vivre finalement.
Ouais. Alors, Terre des Hommes, c'est très intéressant. Terre des Hommes, c'est une association qui a été créée en 1960 par un franco-suisse qui s'appelait Edmond Kaiser, et qui en France a été... Alors, c'est compliqué, parce qu'il y a Terre des Hommes suisse, il y a Terre des Hommes France, il y a Terre des Hommes international, et ils n'ont pas tous la même,
oui.
la même position sur l'adoption internationale. Ce qui est sûr pour chez nous en France, c'est que Terre des Hommes, au milieu des années 60, a été l'association qui a vraiment popularisé, si vous voulez, l'adoption internationale, en disant, si vous voulez sauver vraiment un enfant du tiers-monde, adoptez-le, parce que c'est le meilleur moyen de le sauver. Et donc Terre des Hommes France a beaucoup développé cette politique d'adoption dans les années 60-70. Mais dès 1976-77, Terre des Hommes France se dit qu'en fait l'adoption, ce n'est pas un bon moyen de faire de l'humanitaire. Si on veut faire de l'humanitaire, il faut le faire d'une autre manière. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, Terre des Hommes France va plutôt alerter sur les conséquences, je vais dire néfastes, c'est comme ça qu'elle le proposait, des conséquences néfastes de l'adoption internationale. La question d'enfants qu'on déracine, la question d'enfants qu'on coupe de leurs origines, de leur culture, etc. Et puis Terre des Hommes va lancer les premières grandes enquêtes au début des années 80 sur le devenir des enfants adoptés, etc. Donc va beaucoup s'interroger. Hein. Et aujourd'hui, Terre des Hommes est un des mouvements les plus hostiles en fait à l'adoption internationale. Mais en France, j'ai presque envie de dire que c'est lui qui l'a lancé.
Ah oui, au départ, c'est lui, d'accord. Je voulais aussi vous poser une question par rapport au pays, la Corée du Sud. À quel moment le gouvernement s'est rendu compte de cette hémorragie d'enfants, finalement, et à quel moment il aurait décidé de privilégier l'adoption nationale? Parce qu'il y avait toujours ces enfants qui étaient plus ou moins adoptables, d'ailleurs, ça, là-dessus, on est d'accord. Et est-ce que ça s'est beaucoup développé après, dans le pays?
Si vous voulez, la Corée du Sud a cette spécificité de... comment dire, de poursuivre très longtemps cette idée que, eh bien, il y a une opportunité pour des enfants à aller à l'adoption internationale. Donc, certes, il va y avoir le développement d'une adoption nationale, on dit d'une adoption domestique. Hein, et en 1989, par exemple, il va y avoir la création d'une agence hein, exclusivement nationale, Holy Family Child Adoption Center. Et c'est lié évidemment aux Jeux Olympiques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se fait le tournant. Hein.
Oui.
Peut-être qu'au lieu de les envoyer à l'étranger, on peut les faire adopter au national. Mais néanmoins, la Corée du Sud va continuer à envoyer un certain nombre d'enfants à l'adoption internationale.
Et maintenant, on dit que la Corée du Sud donc favorise le contact avec ces enfants qui ont été adoptés il y a plusieurs années, favorise leur retour, au moins leur contact avec la Corée. Et maintenant, il y a des grandes avancées sur l'ADN. Et est-ce que la Corée du Sud profite de ça pour faire des comme on dit, des dossiers de parents, d'enfants qui pourraient retrouver ainsi leurs racines en Corée?
Alors là, il y a eu des évolutions très, très récentes. Ça veut dire que dans l'histoire, si vous voulez, de l'adoption internationale, jusqu'à il y a une dizaine d'années, la Corée du Sud était souvent montrée un peu comme un modèle. C'est-à-dire beaucoup d'adoptions organisées par des grandes agences, donc qui savaient faire les choses, qui tenaient des dossiers à jour, précis, etc. Vous voyez ? Et puis là, depuis 10 ans, et surtout depuis 5 ans, il y a un certain nombre d'affaires, de cas, qui révèlent que c'est un peu plus complexe que ça. Qu'il y a effectivement des enfants qui ont été adoptés à l'étranger sans qu'il y ait consentement de leur famille d'origine et notamment de leur mère. Qu'on a raconté à certaines mères ayant accouché, ayant... s'étant désintéressés de leur enfant, des histoires qui ne correspondent pas à la réalité. Que des personnes adoptées à l'étranger sont venues rechercher leurs racines, on leur a dit qu'il n'y avait rien à trouver, etc. Et puis finalement, avec l'ADN ou d'autres choses, hein, ou par des enquêtes, eh bien, on retrouvait trace de leur famille d'origine. Et l'histoire de la famille d'origine, ce n'est pas du tout on t'a abandonné, c'est on t'a toujours cherché.
Ouais.
Donc, vous voyez, depuis, il y a un certain nombre de plaintes qui ont été déposées, notamment au Danemark. Il y a maintenant des collectifs qui veulent vraiment faire la lumière sur la manière dont l'adoption internationale en Corée a été organisée, mise dans les mains de grandes agences internationales, quelle a été la responsabilité de l'État sud-coréen dans tout ça. Et la commission Réconciliation Vérité là, se penche sur cette question des adoptions à l'étranger, dont certaines peuvent présenter des pratiques illicites.
Oui, il y a eu des dossiers falsifiés, en fait.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, oui. L'élément le plus important, c'est de replacer comme première personne concernée l'enfant, en fait. Vous voyez ? Certes, les parents adoptants sont concernés, certes, les intermédiaires, les associations sont concernées, etc., les États sont concernés, mais en fait, voilà, aujourd'hui, les personnes adoptées, ce qu'elles réclament, c'est d'être écoutées, entendues, respectées en tant que telles. Ce sont les premières personnes concernées par cette adoption. Le principal changement. Quoi.
Oui, ce qui donnerait d'autres ouvertures, par exemple, sur l'accompagnement des enfants ayant été adoptés aujourd'hui.
Ben voilà.
Et aujourd'hui, ce serait un enjeu...
qui commence à être pris en compte, mais bon, vu la valse des gouvernements, ça avance pas du tout. Mais c'est la question de créer un véritable service pour aider les personnes adoptées à l'étranger à rechercher et à retrouver leurs origines. Aujourd'hui,
oui.
Ce service-là n'existe pas.
D'accord.
C'est objectivement pas très normal.
On va écouter Choi Sung-bung, une chanson qui s'appelle Mother to Daughter.
잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데 벌써 늙어 있었고 넌 항상 어린아이 일 줄만 알았는데 벌써 어른이 다 되었고 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게 해줄 말이 없지만 네가 좀 더 행복해지기를 원하는 마음에 내 가슴속을 뒤져 할 말을 찾지 공부해라 아니야 그건 너무 교과서야 성실해라 나도 그러지 못했잖아 사랑해라 아니야 그건 너무 어려워 너의 삶을 살아라 난 한참 세상 살아는 줄만 알았는데 아직 15이고 난 항상 예쁜 딸로 머물고 싶었지만 이미 미운 털이 박혔고 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 알고픈 일들 정말 많지만 엄만 또 늘 같은 말만 되풀이하며 내 맘의 문을 더 굳게 닫지 공부해라 그게 중요한 건 나도 알아 성실해라 나도 애쓰고 있잖아요 사랑해라 더는 상처받고 싶진 않아 나의 삶을 살게 해줘
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 avec Nabi qui témoigne de son vécu comme enfant coréenne adoptée par une famille française.
Bon Nabi, après l'interview du professeur, on va parler de ton travail sur toi, on va dire psychologique, on va dire tes recherches aussi sur les problèmes de l'adoption internationale, ton inscription peut-être au sein d'associations. Hein, depuis 2 ans, tu fais un gros travail là-dessus parce que tu as des choses à régler. Hein, comme tous les enfants adoptés, finalement, ce n'est pas aussi simple toujours que ce dont on nous présente. Donc à toi maintenant, dis-nous un peu ce que tu as fait.
Ben, disons que c'est même avant, il y a 2 ans en fait, c'est pendant toute la vie. Sauf qu'avant, je faisais des allers-retours. Avec cette problématique, j'allais voir, par exemple, je voulais apprendre le coréen, puis après, plus du tout. Puis surtout, j'avais personne dans mon village avec qui parlait coréen. Et je regardais des choses sur l'histoire de la Corée, puis après, je ne regardais plus. Enfin, ça avait pas mal d'allers-retours. Et puis là, ce qui a beaucoup changé, c'était à ma première maternité, à la naissance de mon fils, où j'ai compris que, en fait, on pouvait abandonner son enfant, oui, mais c'était vraiment pas si facile que ça. Et en fait, il fallait vraiment des grosses, grosses contraintes pour faire abandonner un enfant à une mère, l'enfant qui vient juste de naître. Du coup, déjà ça m'a bien bouleversée. Et depuis que j'ai 20 ans, je fais des thérapies. Parce que j'avais des problèmes identitaires à l'adolescence, comme j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pu, puisque je ne pouvais pas avoir des éléments à l'extérieur de moi, donc administratifs, où je ne connaissais pas, il n'y a rien dans mon dossier d'adoption, par exemple. Et ben, je suis allée chercher à l'intérieur de moi, de mon corps, de ma mémoire. Et j'ai pu parcourir beaucoup de sortes de thérapies. De l'hypnose au rebirth, à la psychothérapie même classique, à la thérapie, comment ça s'appelle déjà, biodynamique, qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai pu comme retrouver des mémoires et des sensations, des mémoires émotionnelles, qui m'ont donné, comment dire, on ne peut pas savoir si ça s'est passé exactement, mais je peux savoir comment au moins je l'ai ressenti et je l'ai pris. De tout ce que j'avais pu vivre. Et ça, ça a été une grande aide, sachant que je ne connaissais pas mon histoire.
Tu l'as fait toute seule, ça ? Ou on t'a conseillé ?
Non, avec des thérapeutes. Oui, avec des thérapeutes et avec, au fil de la vie.
Et c'était des thérapeutes qui avaient une spécialisation dans l'adoption ou même pas du tout ?
Non, ça c'est très dur à trouver.
Ah oui.
Là, en ce moment, je fais une thérapie gestalt avec une personne spécialiste de l'adoption parce qu'elle a été elle-même adoptée. Et c'était important pour moi de trouver une personne comme ça parce qu'elle est déconstruite sur beaucoup de problèmes liés à l'adoption Et ça, c'est... Il y a beaucoup d'adoptés qui m'ont témoigné que c'était très dur pour eux de trouver des personnes qui pouvaient vraiment les comprendre.
Et pour trouver ces personnes-là, tu as des associations, tu as de l'aide d'extérieur?
Moi, j'ai trouvé dans le sommet sur l'adoption internationale, fait par Sandra Mahé, ça s'appelle « Journal d'une adoptée » sur Internet. Et elle fait un sommet tous les ans. Donc moi, je l'ai trouvé ici. Après, il y a aussi le cercle, j'ai un cercle de parole à Racine Coréenne. C'est une association d'adoptés coréens qui a été faite. C'est une des plus vieilles associations qui a été faite de personnes adoptées à l'international. Et ils organisent des dîners un dimanche du mois et pas mal d'événements, dont un cercle de parole sur l'adoption. Et ça, c'est assez rare aussi.
J'en ai pas vu dans d'autres associations. Dans la Drôme ou tu vas ailleurs?
À Paris.
À Paris, oui, chaque fois.
À Paris, après, il y a des antennes un peu partout. À Lyon, il y a aussi une autre association qui s'appelle Les Amoureux de la Corée. Donc, je suis allée intervenir pour présenter mon livre. Parce que donc, récemment, donc depuis 2 ans, j'ai plongé dans ma propre adoption parce que j'ai créé un livre collaboratif avec d'autres personnes adoptées qui témoignent sur leur adoption. Alors, ils témoignent en texte, en poème, en visuel, en peinture, en dessin.
Tout ça dans ce livre-là.
Dans ce livre, oui.
Excuse-moi, oui, je te coupe la parole. C'était pour te demander, en fait, est-ce que c'est que des enfants, enfin, ou des adultes maintenant, mais qui ont été adoptés, des enfants coréens ou à l'international en général? Enfin, tu as des contacts avec d'autres?
Oh, oui, c'est pour ce livre. À l'international en général. Parce que je me suis rendu compte que les réactions, les vécus, ils étaient pareils. Il y a vraiment des choses en commun. Et c'est à l'international parce que les personnes adoptées nationales, enfin, qui ont leurs racines, je veux dire, ethniques ici, elles n'ont pas vécu la même chose, notamment par rapport au déracinement et à l'exil. Par contre, j'ai pu voir qu'il y avait des choses en commun aux personnes exilées et les personnes adoptées à l'international, avec les déplacements en fait, géographiques subis, plus ou moins subis.
Ça, avec des personnes qui n'ont pas été adoptées, mais qui ont vécu l'exil.
Oui, oui, il y a des traits qui se retrouvent. Ou des problématiques.
Et est-ce que au niveau on a compris que l'adoption internationale sous des jolies présentations présente beaucoup de choses illicites, entre autres qu'il y a eu des adoptions dont les parents ou la maman n'étaient pas d'accord. Hein. Il y a eu des destructions de papiers aussi, de dossiers d'adoption. Hein.
Oui.
Comment vous arrivez au sein d'associations ou de tes recherches à t'en sortir malgré tout, à trouver des moyens de retrouver sa famille peut-être?
C'est un petit peu compliqué, ça dépend à quelle époque tu as fait les recherches. Si c'était au tout début, c'était vraiment difficile parce que déjà, il fallait aller en Corée récupérer son dossier d'adoption. Parce que dans ton dossier d'adoption, il y a des informations différentes que dans ton dossier d'adoption donné par l'association par laquelle tu as été adopté ou par le HALT. Donc déjà, il faut arriver à récupérer son dossier. Donc l'administration en Corée veut bientôt le donner. Et il y a des personnes adoptées aussi où il y avait les informations, mais la personne ne voulait pas donner les informations. Ou alors, il y a des dossiers qui ont été falsifiés, ou des mensonges aussi, des histoires qui ont été créées de toutes pièces. Il y a aussi des personnes qui ont été deux personnes pour un même dossier. Donc il y avait même nom, même prénom. Il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça, à avoir les mêmes noms, mêmes prénoms, oui, sur un seul dossier.
Ce sont des dossiers créés, en fait, toutes pièces.
Voilà, c'est ça. Et la réponse classique à l'époque, c'était on a perdu votre dossier, ou alors on l'a brûlé. Donc moi, ce que j'ai eu, c'est on l'a brûlé. Donc ça a disparu dans les archives, ou des choses comme ça.
Et au niveau du gouvernement coréen, il y a de l'aide pour tous ces enfants qui ont été adoptés?
Eh bien, avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a un peu plus. Il y a notamment un test ADN qui a été mis en place en 2021. Et pour l'instant, il y a 50 dossiers. La personne avec qui parce que moi je l'ai fait donc cette année, et elle m'a dit qu'en France, il n'y a personne qui a retrouvé quelqu'un par ce test ADN. Parce qu'en fait, il faut que les Coréens le fassent aussi. Sinon, ils ne sont pas dans la banque de données. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de publicité ou d'incitation ou même d'information en Corée pour le faire, mais il y a très peu de gens qui sont au courant.
Oui, le gouvernement n'agit pas du tout dans ce sens-là, en Corée.
Moi, je ne trouve pas. Peut-être qu'ils sont plus ouverts, mais ce n'est pas encore ça. Après, ils favorisent, par contre, le retour des enfants en Corée. Enfin, ceux qui sont adultes maintenant, et des enfants, donc la deuxième génération des enfants adoptés. Par exemple, ils payent des voyages ou des études. Oui, et d'accord. On a aussi la possibilité d'avoir la double nationalité. C'est quelque chose que, en Corée, soit tu as la nationalité coréenne, soit tu en as une autre. C'est pas possible d'en avoir la double. Sauf maintenant pour les enfants adoptés, qui peuvent avoir la double nationalité.
Si tu en fais la demande, toi, tu pourrais avoir la nationalité coréenne.
Oui.
C'est quelque chose auquel tu penses ?
Pour l'instant, non, parce que tant que j'ai rien retrouvé, j'ai pas retrouvé mes parents ou de la famille, j'ai pas vraiment. J'ai envie d'y aller de temps en temps, comme ça, en Corée, mais j'ai pas de lien particulier pour y aller très régulièrement. Et aussi, j'aimerais mieux me renseigner sur les droits et les devoirs quand on a la nationalité, par exemple. Parce que si je la passe à mon fils et qu'il y a le service militaire, par exemple, faut le savoir.
Il faut mieux le savoir, oui.
Il faut mieux le savoir.
Et le gouvernement français, est-ce qu'il y a de l'aide de ce côté-là ?
Ah non, pas du tout.
Rien ?
Non.
Il n'y a pas de ministère, il n'y a rien du tout. La protection de l'enfance,
Ils ont créé une section au ministère pour étudier la question de l'adoption internationale, mais ils n'aident pas les personnes... adoptées à retrouver. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les personnes adoptées, c'est une question de génération, ont l'âge d'avoir passé le choc de l'adoption, l'amnésie un peu aussi de l'adoption, et de réaliser quand même, ils sont adoptés, et de vouloir faire des recherches, et de trouver des choses illicites, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait des recherches par les tests ADN, alors que dans l'administration, on leur a dit non, non, il n'y a rien, et puis de toute façon, on les a découragés, parce que en leur disant, vous n'êtes pas bien en France, vous devriez pas chercher plus loin. Donc ces personnes ont cherché plus loin, par des tests ADN, par Facebook, les réseaux sociaux, et ont trouvé leur famille d'origine, et ont bien vu que, en fait, par exemple, le consentement de la mère n'avait pas été, demandé. Il y a des enfants, ils ont juste été trouvés dans la rue, alors qu'ils jouaient dans la rue devant chez eux.
Ah oui.
Et quand les parents sont allés chercher à l'orphelinat pour voir s'ils n'étaient pas là-bas, on ne sait jamais, l'orphelinat a dit non alors qu'ils avaient le dossier de la personne.
Ouais.
Voilà, il y a des mères, on leur a dit c'est votre quatrième fille, c'est votre cinquième fille, le jour de la naissance de l'enfant, elle aura une meilleure vie à l'adoption internationale, ça ira mieux pour elle si vous l'aimez vraiment, il faut vraiment la donner à l'adoption.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, un jour de naissance, enfin le jour de l'accouchement,
ouais, c'est une pression psychologique,
c'est une grosse pression.
Ouais.
Voilà, pour trouver, parce qu'à un moment donné, ça s'est tellement emballé, cette histoire d'adoption internationale, qu'il a fallu trouver des parents. Au début, on trouvait des parents à des enfants, et, après la guerre, comme disait M. Denescher. Mais après, il y avait tellement de demandes en Occident qu'il a fallu trouver des enfants à des parents pour que le marché continue, en fait.
Oui, parce que comme on en avait parlé avec le professeur, il y a beaucoup d'associations, d'associations comme l'association Holt en fait, qui s'occupait d'adoption et qui, pour qui c'était un vrai marché. En fait,
oui.
Il y avait une histoire de fric et même les différentes associations se tiraient la bourre, enfin, ça ne va pas se dire comme ça, mais pour trouver le plus d'enfants possible et faire de l'argent là-dessus. Ça s'est fait, ça, à un moment. Et est-ce que tu sais s'il y a des enfants adoptés de ton âge ou plus vieux, qui ont porté plainte. Alors, je ne sais pas à qui d'ailleurs, mais...
Et bien justement, il y a au collectif DAC, qui s'est formé il n'y a pas très longtemps, où c'est une personne aussi qui a retrouvé sa famille d'origine et s'est rendu compte, en discutant avec ses parents, qu'en fait, il ne s'était pas du tout passé ce qui est marqué dans son dossier d'adoption et que ses parents n'avaient pas du tout eu l'intention de l'abandonner. Donc elle a monté ce collectif avec une autre personne pour aider les enfants à rechercher leurs origines. Et j'ai perdu la question, c'était quoi que tu me disais?
S'il y avait eu des gens qui avaient porté plainte contre le gouvernement coréen ou voilà, français, ou
et elles ont porté plainte contre, je ne sais plus si c'est contre le gouvernement coréen ou français, mais c'est parce qu'en fait, là, pour toute cette génération de personnes qui a été adoptée, les revendications, c'est qu'est-ce qu'on fait pour nous pour réparer l'injustice qui a été faite. Parce que maintenant, les adoptions internationales, elles ont baissé. Il y a eu un travail quand même de fait pour que celles qui sont illicites, avec tous les scandales qui ont été mis à jour, toutes celles qui ont été illicites soient baissées. Il y a des pays qui ont refusé maintenant d'adopter à l'international. Donc maintenant, c'est mieux. Il y a peut-être moins d'adoptions illicites. Mais pour toutes les personnes, il y en a qui sont vraiment très en colère. Hein. Pour mon livre, j'ai dû en écouter et c'était parfois pas facile. Il y a par exemple quelqu'un qui a été adopté d'Éthiopie et qui a été mis dans un camion plusieurs fois. Il s'est échappé, plusieurs fois il a été remis pour partir dans un pays occidental et il n'a jamais voulu, il ne voulait pas quitter son pays. Alors que ça s'est très mal passé avec sa famille ensuite adoptive. Et là, il les appelle ses propriétaires par exemple. Ce n'est pas ses parents, c'est ses propriétaires.
Ah oui. C'est violent quand même là, oui.
Oui. Il y a plein d'histoires comme ça que j'ai pu entendre.
Et est-ce que dans ces problématiques-là d'enfants qui se sont rendus compte que leur adoption était illicite, enfin tout ça, est-ce qu'il y a un reproche aux parents adoptants? Parce que est-ce que ces parents adoptants peut-être qu'ils n'ont pas trop cherché à comprendre non plus, mais est-ce qu'ils ne sont pas responsables de ça ou responsables?
Ben, disons qu'ils y ont participé, mais je ne pense pas en étant au courant.
Oui, c'est quand même pas voulu. Maintenant, ils étaient heureux d'avoir un bébé. Ils sont peut-être pas allés voir comment ça s'était passé là-bas. Mais
ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est surtout la différence entre le parcours de l'enfant adopté, qui parfois vient d'être arraché à ses parents et mis dans un avion et arrive à l'aéroport pour rencontrer ses parents adoptants. Et les parents adoptants, ils ont fait tout un trajet de FIV, de perte d'enfant, de deuil, d'avoir un enfant biologique, de volonté d'avoir un enfant, ça pendant des années. Et en fait, ces deux personnes se rencontrent et c'est violent, quoi.
Oui. Parce qu'en fait, des personnes blessées de part et d'autre.
Quoi. Voilà. Ouais. Et l'enfant qui vient d'être arraché à ses parents, elle peut pas faire le deuil. Puisque c'est un peu interdit parce qu'ils sont tellement contents, les parents adoptifs, d'avoir un enfant.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qui est
compliqué, ça,
très compliqué. Mm-hmm. Donc pendant un moment, pendant toute l'enfance en général, la personne adoptée, elle s'adapte. Elle s'adapte pour intégrer toutes les informations, le nouveau pays, la nouvelle famille. Tu mets de côté tout le deuil que tu as à faire de tout ce que tu viens de perdre.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a aussi pour l'enfant adopté, alors est-ce que c'est formulé suivant l'âge à laquelle il a été adopté, mais comment... Est-ce qu'il en veut à ses parents adoptants ou est-ce qu'il a peur que ses parents adoptants l'abandonnent aussi comme il aurait été abandonné précédemment?
Et ben, je crois les deux.
Ouais, les deux.
Parce que, y a à la fois en vouloir, quand tu vois que tu es issu d'un trafic, y a un moment donné peut-être où tu leur en veux. Après, tu rends vite compte qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que...
Oui, c'était pas conscient quand même.
Il y a peu de personnes adoptives qui disent « Tiens, je vais avoir recours à un trafic d'enfants pour avoir un enfant. Mm-hmm. » Et en même temps, on peut leur vouloir de ne pas avoir cherché plus loin. Mais souvent aussi, ça a été mon cas d'être en colère contre on ne sait pas quoi. Mais vu que les parents adoptifs, c'est ceux qui sont là, et ben on est en colère contre eux.
Oui, c'est logique.
C'est eux qui prennent puisqu'ils sont là. Mm-hmm. Mais... moi, j'ai découvert que ma colère, elle était dirigée contre aussi l'État coréen, finalement, contre peut-être l'environnement. Parce qu'en fait, une mère qui a un enfant, même si elle est seule ou célibataire, si elle a l'environnement social qui est fait pour, elle pourrait garder son enfant. Sauf que peut-être qu'il n'y a pas l'environnement social, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas de la famille ou de soutien même financier de l'État.
Oui, tout ça, c'est des personnes à qui tu peux en vouloir, en fait. Parce qu'ils n'ont pas aidé ta maman.
C'est pas juste la maman qui abandonne. Mm. Mais pendant toute l'enfance, souvent, on dit « Bon, t'as été abandonnée. » Donc, en fait, t'en veux aussi à ta mère biologique de t'avoir abandonnée et rejetée et tout ça.
Et pourquoi elle aurait fait ça
Et pendant tout ce temps-là, je ne comprends pas pourquoi.
Mm. Est-ce que tu sais si aujourd'hui encore, c'est le même contexte pour les mères célibataires, ou est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions dans la société coréenne?
Eh ben, je crois qu'il y a plus d'adoptions en Corée, déjà. Donc les enfants ne sont pas déracinés de leurs racines. Et je ne sais pas si elles sont aidées, les mères coréennes, mais j'ai vu un reportage récemment où il y avait des mères célibataires qui étaient rassemblées dans un endroit pour qu'elles vivent leur grossesse. Et par contre, il leur était fortement proposé à la fin de faire adopter leur enfant. Et surtout, ce qui m'a choquée, c'était que ce n'était pas elles qui prenaient les décisions, c'était souvent leur famille, leurs parents, le père surtout. Il y en a un qui disait, mais on ne peut pas revenir avec ça à la maison, avec un enfant à la maison, parce que c'est beaucoup, qu'est-ce qu'en penseraient les voisins?
Encore aujourd'hui, donc ouais. C'est socialement pas accepté d'avoir un enfant toute seule.
Oui, c'est quand même compliqué. Avant, c'était pire parce que tu ne pouvais même pas vivre, si tu étais une femme avec un enfant seule, tu ne pouvais même pas vivre socialement parlant. Il fallait même abandonner tes premiers enfants si ton mari est mort. Il faut abandonner tes premiers enfants pour pouvoir te remarier, pour pouvoir en avoir d'autres. Pour entériner le mariage.
Ça, c'était avant.
C'était avant. Après, ça perdure dans les mentalités, je pense.
En Corée du Sud, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. On s'attend à ce que ce soit un pays extrêmement moderne et même sociétalement, en fait. Mais là, ça reste encore difficile, quoi.
Oui, c'était très patriarcal. Après, moi, quand j'y suis allée, j'ai autant vu des grands buildings avec plein de choses brillantes et tout ça. Et à côté, des petites mamies qui coupaient l'herbe à la main. Ils tondaient ils n'avaient pas de tondeuse, ils tondaient la pelouse à la main encore. Donc je me suis dit, oui, bon, c'est pas tout à fait l'image... Ouais,
c'est pas occidental comme nous.
Il y a des aspects, hein, ils sont très forts dans la technologie, dans les frigos Samsung là, qui commandent tout seul ce qui manque dans le frigo.
Il y a encore beaucoup de traditions, peut-être. Oui. Mmh. Encore très traditionnelles.
Ben, on arrive à la fin de cette émission. Nabi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter?
On peut te souhaiter bonne chance quand même pour d'autres découvertes par rapport à ton adoption.
Oui, ce que je voulais rajouter, c'était que c'est pas forcément pour les personnes qui ont retrouvé leur famille biologique. Moi, c'est pas forcément le lien avec eux que j'ai envie de faire, même. Mais j'aimerais connaître l'histoire de ce que j'ai vécu et peut-être avoir des photos. Voir à quoi elle ressemblait. Parce que c'est plus ça qui manque, je trouve, que de faire un lien avec la famille biologique.
Et l'histoire familiale, peut-être aussi.
Et l'histoire familiale. On n'a pas beaucoup parlé, ça, mais en fait, c'est pour ceux qui ont retrouvé leur famille biologique, il y a des choses lourdes, en fait, de gérer la culpabilité de leurs parents, par exemple. Il y en a qui doivent même gérer leurs parents maintenant, aller en Corée. Parce que là-bas, c'est une société où les enfants s'occupent des parents. Donc, c'est pas non plus très, très...
Oui, c'est pareil, non.
C'est une autre histoire qui commence quand on retrouve
Oui, ça peut être très lourd,
la famille.
Oui.
Mmh.
Mmh. Et par rapport à ton fils, est-ce que ça a déclenché une plus grande recherche de tes origines héréditaires, génétiques, je sais pas?
Oui, par rapport à mon fils, ce que ça a fait, c'est surtout que ça m'a fait voir ce que c'était que d'avoir une personne de sa famille, de son sang. En fait, il y a plein de gens, mes frères et sœurs, ils me disent aussi, mais pour nous, c'est pareil, c'est pas important. Je leur dis, ben en fait, c'est pas important jusqu'à ce que ça te manque, en fait. Mm. Quand il y a quelque chose qui te manque, ben ça devient important. Et pour moi, oui, c'est important.
Oui.
Et c'est quelque chose que tu as un peu, qui s'est un peu comblé avec la naissance de ton enfant.
Oui, je pense. Ça veut pas dire que j'aime pas mes frères et sœurs, mais c'est un sentiment différent.
Très bien, voilà. Merci Nabi, merci Sylviane, et puis peut-être
merci
qu'il y a...
Merci Sarah pour la technique et toutes les questions.
Et il y aura votre accueil.
Peut-être une prochaine émission dans 2 ans, qui sait.
Tous les 2 ans.
Tous les 2 ans. On va terminer en écoutant une musique pansori. Tu nous dis en 2 mots ce que c'est que le pansori?
Oui, le pansori, c'est un chant plutôt populaire. Quand la première fois que j'ai entendu, ça m'a vraiment marqué. Ça parle souvent d'amour, d'agriculture, de voyage, choses comme ça. Et c'est à la fois théâtre et musique.
Très bien. Merci, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.